Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, l'heure du podcast des maternelles. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important dans le podcast des maternelles. On parle d'un sujet important qui concerne la terre entière, les enfants tyrans, les enfants pénibles, les enfants qui nous rendent dingos. Oui, on parle des enfants qui, même si on les aime plus que tout, bien sûr, sont parfois un peu chiants. Voilà, je le dis comme ça parce que sur un podcast, il y a une plus grande liberté de ton. On va donc écouter un témoignage pour illustrer ce sujet. Et on donne de leçons à personne, hein, parce qu'on connaît tout ça, plus ou moins grande échelle, à plus ou moins court terme par rapport à la naissance. Les enfants pénibles, on connaît tous ça. Donc on est là pour se soutenir, pour prendre les bons conseils. Justement, une pédopsie sera avec nous juste après Nathalie Franc pour nous donner à nous toutes et à nous tous des bons conseils. Car oui, nous, les parents, nous vaincrons. Nous vaincrons la tyrannie de nos enfants. Allez, c'est parti.
Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau des maternelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maman de deux enfants. Votre fille a 14 ans et votre fils en a 11. Et alors vous avez vécu, un véritable enfer avec votre fille aînée pendant 10 ans. Dès toute petite fille, elle a pris le pouvoir à la maison, en fait, on peut le dire, au point de vous dicter vos gestes, de vous dicter votre manière de vous exprimer. C'est-à-dire que vous viviez dans la peur constante de ces réactions ultra-violentes. Et aujourd'hui, vous avez mis enfin un mot sur ces troubles. Vous avez créé une association qui vient en aide aux parents concernés. Ça s'appelle REACT, c'est ça ? Réagir face aux enfants et adolescents à comportement tyrannique. Alors, que les choses soient bien claires dès le début, parce que je vous entends. Évidemment, si on est trop laxiste, comment est-ce qu'on peut les... Non, il faut bien dire que vous avez une éducation qui n'était pas du tout laxiste. Vous avez un cadre sain, structuré dans votre famille. Donc, ce n'est pas du tout le sujet ici. Donc, vous avez très vite d'ailleurs compris que votre fille traversait pas seulement ce qu'on appelle un terrible two, c'est-à-dire la fameuse crise des deux ans. Par exemple, comment se passaient ces sorties de crèche ? Ce n'était pas un terrible two classique.
Non, c'était les sorties de crèche, c'était très particulier. Ça a démarré à peu près à cette période-là. Elle avait un regard noir quand je venais la chercher.
Un regard de haine,
vraiment, quand je venais la récupérer. Elle ne disait rien, elle ne montrait rien. Et à partir du moment où on sortait de la crèche, où on allait à la voiture, là, c'était le début de la crise. Soit parce que j'étais garée trop loin, soit parce que j'étais venue la chercher trop tôt. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et puis, en fait, en grandissant, il y a commencé à avoir des rituels. Je ne pouvais pas éteindre le moteur de la voiture sans couper la radio avant. Si je ne le faisais pas, il fallait que je rallume le moteur de la voiture, sinon elle refusait de sortir. Donc, ça a commencé vraiment à petit, une espèce de prise de pouvoir sur des choses du quotidien, en fait.
Et en fait, si vous ne cédiez pas, il se passait quoi ?
La crise.
C'est-à-dire que on pouvait pas éteindre cette crise, on pouvait pas la calmer, quoi que vous fassiez.
C'est ça, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça partait de choses complètement anodines du quotidien. Ça prenait des proportions qui étaient vraiment incohérentes pour nous, on comprenait pas. Et puis, c'était une enfant qui était tout le temps irritable, irritée, en colère, qui refusait la frustration, qui était en totale opposition, qui était d'une grande rigidité. Donc, en fait, dès qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on voyait la crise arriver, mais on savait que de toute façon, on ne pouvait pas la stopper et que ça allait durer très longtemps.
Elle a parlé très, très tôt.
Ouais.
Et finalement, ça a été aussi une source de conflit, ce langage.
Ouais. Des gros blocages dès le début, donc elle a parlé de suite, mais vraiment des phrases construites. Et en fait, on n'avait pas le droit d'utiliser certains mots, il y avait certaines phrases qu'on devait structurer d'une telle manière ou pas, et on devait répéter exactement la phrase qu'elle voulait. Et si on ne répétait pas la phrase exacte, en fait, elle nous suivait, elle nous harcelait. Moi, je m'enfermais dans la chambre pour avoir un peu de répit, elle était derrière la porte, elle me disait « dis-le, dis-le, dis-le ».
Et donc, vous le disiez ?
Il y a un moment donné, on est tellement épuisé, on est tellement à bout, parce que c'est des crises le matin, le soir, c'est tout le temps, en fait, hein. Donc, on n'en peut plus, on lâche.
Il n'y a pas de répit ?
Non, très peu, très peu.
Alors, à 6 ans, elle a été diagnostiquée HPI, c'est-à-dire haut potentiel. Alors là, c'est pareil, vous vous dites, c'est ça, on sait bien que les hauts potentiels, ils font des crises. Mais ça n'expliquait pas tout, quand même.
Non. Non, parce que notre vie, au fur et à mesure, devenait un véritable enfer. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit HPI, on s'est renseigné, on s'est dit, c'est super, c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose. Puisque c'était un cauchemar au quotidien, aller se coucher, se laver les dents, les moindres choses du quotidien, en fait, devenaient... On marchait sur des œufs tout le temps, en fait. On avait tellement peur de la crise, on était tellement épuisés que toute la vie s'organisait autour de ça. Mmh. Donc, quand je rangeais mon linge dans l'armoire et que je ne lui demandais pas l'autorisation, elle sortait le linge, elle crachait dessus, elle rejetait par terre. Si effectivement, le matin, pour se lever, si on ne rentrait pas le bon moment dans la chambre, si on n'allumait pas la lumière au bon moment, il fallait que je ressorte la chambre. chambre, que j'éteigne la lumière. Voilà, mon mari pareil, hein, quand je dis moi, c'est... donc voilà, donc toutes les choses quotidiennes, au fur et à mesure, elle prend le pouvoir. Il y a une emprise totale sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur notre manière de nous comporter. On devient complètement privé de liberté. Puis on est surtout entravé dans notre rôle de parent. Et tout ce qu'on met en place, l'éducation classique qu'on connaît, bien évidemment, on a essayé, ça ne fonctionne pas.
Il n'y a rien à faire. Non. À 7 ans, elle est devenue violente physiquement ?
Oui. Alors, sur les objets, déjà, qu'on affectionne. Et puis après, sur nous. Alors moi, elle s'en prenait beaucoup à moi et aux cheveux. Donc ça vient d'un coup, en fait. On ne le voit même pas arriver. Elle m'a attrapé les cheveux. Elle m'a arraché par poignée. Hein. C'était pas juste je tire les cheveux. J'avais des hématomes dans la tête. Et du coup, vraiment, elle ne lâchait pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Quand elle est en crise, ça la dépasse.
Vous pouvez prendre un couteau, par exemple,
ouais,
vous menacez vraiment physiquement
c'est
ou pas
ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est que bon, moi, je la suppliais de me lâcher. Si le papa, du coup, essayait d'intervenir, parce que le papa se sent impuissant, du coup, ça peut basculer aussi dans des situations beaucoup plus graves. C'est-à-dire qu'elle peut prendre un couteau, soit pour s'en prendre à nous, ou soit pour s'en prendre à elle. Donc, dans ces moments-là, il n'y a rien à faire. Donc, je me laisse faire, je la supplie de me lâcher. Mais en fait, elle ne peut pas, elle n'est pas dans l'incapacité de le faire. Et donc, on subit, on ne dit rien.
Alors donc, vous l'avez dit, vous êtes pliée au désir de votre fille pour éviter les crises continues et surtout pour éviter ça à votre petit garçon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait 3 ans de moins. Vous nous avez parlé en préparant cette émission d'un événement, enfin d'événements au pluriel d'ailleurs, marquant, surtout aux sorties de l'école, c'est-à-dire qu'elle l'humiliait.
Oui. Alors, déjà, bon, elle était très dure avec lui. Vraiment, tu ne mérites pas de vivre, tu ne vaux rien. Mais les sorties d'école, en fait, comme elle se déchargeait sur nous, à partir du moment où je les prenais à l'école, vraiment, à la sortie de l'école, c'était... voilà, si par exemple, on sortait tous les trois de la voiture, elle me disait, est-ce que tu as pris mon cartable sans me le demander? Je lui dis oui. Elle me dit, tu vas le reposer? Et là, on se dit concrètement, enfin, ça devient dingue. On se dit, bah non, je ne vais pas le reposer. Elle me dit, si, tu vas le reposer. Et là, en fait, vous sortez du boulot, vous avez la boule au ventre, vous voyez votre petit garçon qui n'a rien demandé. Là, vous le faites. Vous le faites parce que vous savez que la crise, elle va arriver et que de toute façon, vous voulez le protéger aussi, lui. Et là, vous remettez le cartable dans le coffre. Et là, il se passe un truc qui fait que vous êtes dans une telle rage, dans une telle souffrance. Vous détestez juste votre enfant pour ce qu'elle est en train de vous faire vivre. Et en même temps, c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, elle nous fait vivre l'enfer. Et il faut continuer à l'aimer parce que c'est notre enfant. Et qu'il n'y a pas de joie ou de moments de complicité où ils sont très rares pour contrebalancer tout ce qu'on vit. Et cette lutte, c'est extrêmement douloureux pour les parents et pour une maman.
Vous dites, quand j'allais la chercher à l'école, c'était des moments clés parce qu'elle déchargeait, parce qu'elle n'était pas comme ça à l'école.
Non. À l'extérieur, petite fille normale, entre guillemets.
Les profs vous disaient qu'elle était super.
Voilà, un peu réservée, mais des copines, tout allait très bien. Et c'est vraiment, et nous, dès qu'on allait chercher à l'école, voilà, on avait déjà vraiment la boule au ventre, c'était cette sensation-là. On a eu la crise du matin, on s'en était sorti, je ne sais pas comment, et le soir, il fallait recommencer ça et aller la chercher. Quoi.
Alors j'imagine que vous avez consulté assez rapidement.
Mais oui, un petit peu.
Qu'est-ce qu'on vous a dit
On a vu, bien sûr, pas mal de spécialistes, 4 ans, donc on nous disait qu'elle était très angoissée. Mais bon, un enfant angoissé n'agit pas toujours comme ça. C'était très compliqué, donc on s'est aussi ouvert à d'autres types de médecine ou autres, parallèles, sophrologie, hypnose et autres, vraiment essayer de comprendre. Mais chaque fois qu'effectivement, de toute façon, qu'elle était en soins, le plus dur pour nous, c'était qu'elle était très, très lucide, très posée, très cohérente. Donc du coup, le médecin nous disait, mais votre fille, elle va très bien. Et vous, par contre, comment vous allez? Donc là, de suite, on venait chercher du côté du parent.
Voilà, c'était votre faute, qu'il se passe par défaut.
Un petit peu, oui.
Vous étiez à bout, hein, évidemment, on vous comprend. Vous avez fait hospitaliser votre fille plusieurs fois à partir de ses 7 ans, jusqu'au jour où votre fils vous a envoyé un signal d'alarme. C'était en 2018. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'était?
Oui, il s'est mis sur le rebord de la fenêtre, en fait. Il avait 8 ans, elle en avait 11, et il nous a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait mourir. Et donc là, ça a été... un électrochoc. On s'est dit que du coup, nous on était adultes, on pouvait supporter tout ça, mais que lui c'était un enfant. Donc on a décidé de s'auto-signaler auprès d'un juge. Et c'était un risque parce qu'on pouvait aussi nous enlever la garde de notre enfant. Et on a eu la chance d'avoir une super équipe au niveau de l'aide sociale à l'enfance qui a été formidable, qui nous a compris, qui nous a cru, qui nous a aidés, qui nous a accompagnés. Ils ont fait un travail extraordinaire et du coup, ça nous a vraiment porté. Parce qu'on est des parents... Enfin, notre cas, il est atypique, on est pas maltraitant envers notre enfant. C'est plutôt l'inverse. Et nous, quand notre fille, elle est en crise, en fait, pour pas nous basculer dans la violence, on s'en prend. Mon mari tapait sur des portes, il défonçait des murs, il se tapait lui-même. Moi, je faisais des malaises, je me donnais des gifles pour pas la frapper.
Vous avez réussi à jamais lui mettre une fessée, etc.
Je
jamais
pense craquer. Que, très sincèrement, on n'est pas des parents parfaits. Je pense qu'un jour, elle a dû peut-être prendre une claque, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est que nous, on reçoit de la violence physique, psychique, et on est en pleine soumission. Et pour autant, on s'interdit. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Et on avait peur aussi du geste. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y avait un geste de trop, on avait peur aussi de ça.
Oui,
donc
puis
il fallait qu'on
se mette
en protection.
Aussi, j'imagine.
Pour notre fils, pour nous, pour tout le monde. Ouais, pour
alors,
elle,
parallèlement surtout. À ce signalement, vous avez rencontré la pédopsychiatre Nathalie Franck, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure pour nous parler donc de ce trouble. Parce que c'est vrai que nous, on ne connaissait pas du tout dans les maternelles. Elle prend spécifiquement en charge les enfants à comportement tyrannique. Donc elle vous a donné des clés de changement pour votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez mis en place à partir du moment où elle vous a pris en charge?
Déjà, de rencontrer Nathalie Franck, c'est un grand soulagement. On a enfin compris, on est cru, on a...
Voilà, vous avez eu un diagnostic.
On a eu un diagnostic, et puis là, voilà, on nous dit culpabilise. C'est-à-dire, on nous dit, votre fille, c'est pas un problème d'éducation, c'est qu'elle vraiment, elle a des troubles. Tout ce que vous auriez pu faire, de toute façon, n'aurait pas changé à ça. Donc,
vous déculpabilisez, vous demandez plus ce que vous avez fait de mal, quoi.
Exactement. Et puis on n'est plus seul, parce que nous, on se sentait seul au monde, dans ce qu'on vivait. Voilà, on sentait vraiment que les gens ne voyaient pas la gravité de la situation. Donc déjà, effectivement, le fait de travailler Nathalie sur la méthodologie qu'elle a créée avec Aïe Momer de la résistance non violente, c'est des outils qu'on crée au quotidien. C'est-à-dire comment nous reprendre notre rôle, notre position de parent sans basculer dans la violence. Donc le cas concret, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la crise, faire le silence pour éviter l'escalade, créer un réseau de soutien pour sortir du silence et puis que des gens puissent intervenir en cas de besoin. Grâce à Nathalie Franck aussi, on a pu avoir un diagnostic. Et donc, qui dit diagnostic, on s'est rendu compte que notre fille, elle avait la plupart des troubles qui étaient associés au comportement tyrannique, troubles de l'attention, troubles d'opposition et provocation, une dérégulation émotionnelle, des troubles anxieux. Donc, un traitement adapté. Donc là, c'est pareil, c'est notre vie qui change en 3 jours.
Et ce qui a nécessité ce traitement, une séparation aussi, il faut le dire.
Exactement. C'est-à-dire que le traitement, la méthodologie, c'est des outils formidables, mais à un moment donné, il y a besoin d'un éloignement, parce que ça ne fait pas tout. Et que cet éloignement, il est nécessaire aussi. Il a été nécessaire pour notre fille et puis pour nous, pour un petit peu reprendre nos esprits. Puis notre fille, qu'elle puisse, on le voit aujourd'hui, ça lui a fait beaucoup de bien. Ça lui permet d'être confrontée au quotidien à ses troubles. Du coup, de se rendre compte qu'elle a des difficultés à vivre avec et du coup, de souhaiter elle aussi de contribuer à avoir du soin.
Donc,
elle est dans cette
démarche.
Ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. Alors, voilà, on a vécu des traumatismes. Hein, nous, elle est. C'est une petite fille très courageuse, on est super fiers d'elle. Et en même temps, c'est petit à petit, on reconstruit une relation. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui est mis en place, les équipes sociales, médicales qui sont autour d'elle et tous les gens qui nous aident, nos proches et notre famille, elle retrouve une vie à peu près normale avec ses troubles. Elle a plein de projets. Elle danse, elle écrit, donc c'est super. Et puis on retrouve des moments complices en famille et on va avec un peu plus de sérénité et de la joie.
Bonjour Nathalie Franck. Ça y est, vous mettez un visage sur le nom. Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Vous avez créé donc une consultation sur mesure pour les enfants à comportement tyrannique. Vous êtes aussi auteur de « Accompagner les parents d'enfants tyranniques » chez Duno et « Crise de colère de l'enfant et d'adolescent » chez Ellipse. Alors, dans la maison des maternelles, depuis 6 ans, à chaque fois qu'on dit « enfant tyran », on se fait déchiré sur les réseaux. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'un enfant est tyrannique, juste, il n'arrive pas à gérer ses émotions, etc. Je pense que les gens n'ont pas tort, c'est-à-dire qu'un terrible tout, ça ne fait pas un enfant tyran. Donc, qu'est-ce que c'est que ce trouble-là? Est-ce que c'est, et ce n'est pas toujours aussi sévère que le cas de Marion dans votre consultation?
Non, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'aime pas trop. Alors, on parle plutôt d'un comportement, tyrannique plutôt qu'un enfant tyran.
Oui, ça enlève l'étiquette.
On ne qualifie que le comportement, et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un diagnostic en tant que tel, mais c'est ce comportement, finalement, de prise de pouvoir sur la famille. Et c'est ce que décrit justement Marion et que décrivent les parents. C'est ce moment-là où ça bascule et où, en tant que parent, on n'a plus l'autorité, finalement, et on s'aperçoit que les décisions qu'on prend au quotidien, c'est en fonction de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire à manger, où on va aller en vacances, quel est le programme qu'on va choisir à la télévision. Toutes les décisions sont prises finalement
pour éviter la crise.
Pour éviter une crise, par peur des réactions, par peur de la détresse de l'enfant. Et ce moment-là, c'est pour ça que, même si on n'aime pas trop ce terme-là, ça illustre bien la dimension de pouvoir et de contrôle que prend l'enfant. Parce que justement, il est en difficulté. Et ce qu'on ne retrouve pas à l'extérieur de la maison, ça, c'est aussi un point important dans notre consultation. Ouais. Ce sont des enfants qui fonctionnent très bien à l'extérieur.
C'est ça qui est troublant. Hein.
Et qui vont exercer leur contrôle dans le cadre familial. Et c'est ce qui est troublant. Et c'est ce qui fait aussi que les parents ont du mal à être crus, à être entendus et à être compris. Parce que,
ils sont traités de laxistes, j'imagine, en permanence, quoi.
On a une question de Jeanne qui dit qu'elle elle reconnaît complètement sa fille dans ce que Macron.
C'est une obsession, ce président, chez vous.
Ce que Marion a décrit.
C'est l'élection présidentielle, ça commence à l'atteindre.
Ça ne va plus, là. Il faut que ça s'arrête. Concrètement, elle dit quand ma fille devient violente, qu'est-ce que nous, parents, on doit faire pour arrêter ça? Comment on réagit, quoi?
Et la grande question, je crois, c'est est-ce qu'on doit céder?
Reposer la question à ma place, parce que je pense qu'effectivement...
Non, mais c'est vrai. On se dit, est-ce qu'on doit... Quand on entend le témoignage de Marion, pose ton cartable, reprends mon cartable, tu ne l'as pas posé au moment où je voulais, à l'endroit où je voulais... Et pour éviter la crise et pour protéger son deuxième, elle le fait. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Est-ce qu'il faut ne pas céder ou est-ce qu'il faut céder?
C'est extrêmement compliqué. Évidemment, sur le long terme, il ne faut pas céder parce que sinon, on met la main dans l'engrenage et après, ça va être pour tout. Mais sur le moment, quand ça se passe, c'est que les parents qui ont une situation compliquée et qu'il faut éviter une crise pour des raisons de sécurité ou juste parce qu'on n'en peut plus.
De fatigue aussi.
Il faut aussi se dire que on a ses propres limites. Mais la question de... Il y a deux questions. Il y a la question de comment on gère la crise quand elle survient. Et ça, c'est vrai que ce sont des enfants qui font des crises énormes et complètement... qui sont des tsunamis, des tornades. Donc là, c'est plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de reprendre le contrôle par la force ou se dire qu'on va régler ça. Donc il faut justement sortir de ces positions d'escalade et laisser l'enfant gérer ses émotions le plus possible, tout seul, l'isoler si nécessaire. Donc ça, ce sont des points. Il vaut mieux un enfant qu'on va mettre dans sa chambre, mettons, pendant la crise, en disant, écoute, quand tu seras calmé, je serai là, que de s'énerver dessus, que ce soit physiquement ou verbalement. Il faut éviter les escalades de toute façon possible. Et après, pour ces histoires de provocation, où on sait que, là, on voit que c'est une enfant très anxieuse qui a ses rituels, qui veut qu'on rentre dans son truc parce que ça la rassure, mais plus on accepte, finalement, moins ça les rassure sur le long terme, comme c'est tous ça. Ces enfants qui ont des rituels du coucher interminables, si on accepte tout le truc, ça va continuer, ça va s'amplifier. Donc il va falloir sortir de ça, mais comme ce sont des parents fragilisés, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on fait des programmes pour les accompagner, parce que ça ne peut pas être du jour au lendemain, je ne fais plus rien, parce que sinon, ils vont vivre un enfer. Donc il faut l'anticiper, le préparer. Et c'est aussi ce qu'on essaye de travailler avec eux.
Docteur Nathalie Franc, merci d'être revenue sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Vous êtes auteur du livre « Accompagner les parents d'enfants tyranniques » chez Duno. On a plein de questions à vous poser. Alors évidemment, peut-être pas sur des enfants aussi tyranniques que le témoignage de Marion tout à l'heure. On est d'accord qu'on était dans un extrême?
Oui, alors c'est vrai que là, le niveau de violence était tel qu'ils ont été obligés de se signaler au juge, que la situation était devenue infernale. Mais en réalité, on ne sait pas bien combien de familles sont concernées par ce problème, parce que c'est un sujet tabou.
Mais vous en avez beaucoup aussi extrêmes dans votre cabinet ?
Alors, dans nos consultations à l'hôpital, comme c'est une consultation spécialisée, qu'on a monté des groupes là-dessus, qu'on a communiqué, on en a reçu beaucoup et forcément aussi des situations sévères. Et je dirais qu'on a accompagné... plus de 300 familles aujourd'hui, donc qui étaient quand même dans ce type de dynamique. Peut-être pas exactement la même chose, parce que tous les enfants sont différents, mais dans ce profil de se dire l'enfant dysfonctionne à la maison, à l'extérieur. Ça se passe bien, on ne me comprend pas, je ne reçois aucune aide adaptée. Donc oui, des familles comme ça, on en voit beaucoup. Et je suis convaincue que c'est bien plus fréquent que ce qu'on peut s'imaginer, mais ça reste un sujet tabou. Il y a un peu une honte sociale de se dire mon enfant m'agresse, m'insulte, je suis obligée de céder, sinon j'ai peur de ses réactions. Enfin, c'est encore compliqué.
C'est ce qui doit déclencher la consultation, parce qu'on n'a pas vraiment défini et mis les limites de ce que c'est un enfant à comportement tyrannique. Est-ce que c'est à partir du moment où on adapte notre vie à ces désiderata qu'on peut considérer qu'on est dans la tyrannie ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une subjectivité. C'est le moment où on sent qu'on n'a plus le contrôle. Mais je dirais que les parents qui viennent dans nos groupes et ils ont déjà fait des démarches avant. Ils en ont fait depuis longtemps parce que ce sont des enfants qui ont déjà du mal à gérer leurs émotions, souvent qui font des crises de colère, mais au-delà de la crise de colère habituelle de l'enfant de 3-4 ans que tout le monde a vécu. Disons que ça persiste, ça s'amplifie. Donc, ils ont déjà remarqué que ça, c'était compliqué. Ils ont des enfants souvent dont ils voient qu'ils ont des particularités au niveau de l'anxiété. Ce sont quand même des enfants qui ont dans le témoignage de Marion, qui ont besoin que les choses soient d'une certaine façon, parfois très ritualisées, ils ont besoin de contrôler, ils ont souvent peur un peu à l'extérieur, donc ils prennent sur eux, mais c'est compliqué. Donc souvent, il y a eu des démarches en amont par rapport aux difficultés des enfants. Donc ils ont déjà eu des suivis, mais ils n'ont pas été vraiment compris parce que l'enfant a une présentation tellement différente à l'extérieur et en consultation que ce n'est pas forcément évident.
Céline, à l'instant, donc on peut poser toutes nos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et les SMS au 41555. Justement, Céline, à l'instant, vous dit bonjour. J'aime beaucoup mon fils, mais il me fait vivre un enfer. Auriez-vous quelqu'un vers qui m'orienter ? D'ailleurs, c'est marrant qu'elle commence par dire « j'aime beaucoup mon fils » parce qu'on culpabilise forcément de cette situation.
On culpabilise, mais dans les groupes, les parents peuvent dire aussi, ils peuvent échanger sur le fait que des fois, c'est tellement difficile qu'ils n'ont presque, ils disent « on n'a plus d'amour en fait, on n'en peut plus
ouais. ». Ce que disait Marion, il faut continuer à l'aimer. Donc il faut qu'on continue à aimer notre enfant, comment est-ce qu'on fait quoi ?
Et c'est pour ça que, effectivement, cette question commence comme ça. Alors, je pense que pour les parents qui s'interrogent et qui ont retrouvé des similitudes avec ce qui a pu être décrit, il faut contacter justement l'association de parents qui a des relais et qui a des pistes. Donc, il faut commencer par là, à mon avis. Donc, l'association REACT.
D'accord. L'association REACT, effectivement.
Valérie vous dit « Je reconnais mon fils dans ce témoignage, mais la réponse à ce trouble a été un diagnostic Asperger, d'autisme Asperger. Les deux troubles peuvent-ils être associés ?»
Oui, alors c'est vrai que ces enfants, moi j'ai parlé d'un comportement tyrannique, mais souvent derrière ce sont des diagnostics pédopsychiatriques qu'il faut aller chercher. Donc dans ces diagnostics, il peut y avoir les troubles anxieux, les TOC, c'était un petit peu le profil qu'on a entendu tout à l'heure, et les enfants qui ont des TOC, des rituels, ce sont les premiers qui ont ce type de comportement tyrannique et qui sont décrits comme ça. Mais il y a aussi des enfants avec des profils type Asperger, avec un TDAH. Donc, en fait, souvent, ils ont plusieurs particularités en même temps. Ils sont à la fois très anxieux, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Et c'est vrai que dans le syndrome d'Asperger, on peut avoir ce type de profil et on a des parents qui ont des enfants dans cette situation, bien sûr. En fait, derrière le comportement, ce sont les diagnostics qu'il faut aller chercher.
Bien sûr.
Marianne nous écrit, elle nous dit « Divorcée, je démarre une nouvelle relation, ma fille me fait vivre un enfer, m'insulte et me menace sans cesse pour que je quitte mon compagnon. Est-ce de la tyrannie et que puis-je faire concrètement ?»
Alors, si elle sent vraiment qu'il y a de la violence, qu'il y a une emprise, qu'il y a du chantage, qu'elle est dans cette dynamique-là où elle a perdu complètement son autorité d'une certaine façon, où elle n'arrive plus à se positionner, les grandes stratégies pour les familles, et dans les choses qu'on travaille avec eux, c'est déjà de ne pas rester seule, de pouvoir en parler. En fait, on montre aux parents qu'il faut sortir du secret, il faut dire ce qui se passe dans la maison. En fait, même si spontanément, on aurait tendance à avoir honte et à se dire « je ne veux pas salir la réputation de mon enfant, il fonctionne tellement bien à l'extérieur ». Mais ce n'est pas un service à leur rendre. Finalement, il vaut mieux dire voilà ce qui se passe à la maison, voilà ce qu'on vit, parce que ça va mettre aussi un regard social et l'enfant va devoir changer un peu de posture. Donc je pense d'abord, il faut qu'elle en parle autour d'elle, aux gens qui s'intéressent à elle ou qui sont en lien avec sa fille, mais ce n'est pas pour faire des reproches, ce n'est pas pour la juger, mais c'est pour qu'ils puissent aussi donner leur avis et la soutenir, elle. Et après, on travaille beaucoup avec les parents, ils ont besoin, il faut sortir d'une position de sacrifice, en fait. Il faut accepter d'avoir sa propre vie, ses propres besoins, parce que sinon, on entretient le phénomène. Donc, on travaille beaucoup avec eux là-dessus, sur prenez soin de vous, faites des choses pour vous. Donc là, typiquement, elle est en train de démarrer une nouvelle relation, elle a besoin d'investir cette relation pour elle, elle ne peut pas rester, ce n'est pas non plus une bonne idée de vouloir renoncer à ça pour sa fille, parce que ça, au final, ça ne l'aidera pas.
Et quand on entendait le témoignage de Marion, parfois, la séparation, c'est dans ces cas-là peut-être une bonne solution.
L'éloignement. L'éloignement, ça reste. Après, toutes les situations sont différentes. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a de la violence et qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on n'arrive pas à gérer ça et que ça prend trop de place, eh bien, finalement, l'éloignement, c'est une protection. Ce n'est pas une sanction. En fait, il faut vraiment le présenter, même si l'enfant doit partir en internat, chez quelqu'un, n'importe où. Il y a des situations où il n'y a vraiment pas le choix. Nous, on accompagne les parents dans cette décision qui est très culpabilisante, mais qui en même temps protectrice, en fait. C'est un acte d'amour.
Et salvatrice. Pour l'enfant et pour le parent, parce que j'imagine que les moments passés ensemble deviennent des moments précieux et que le manque peut-être calme un peu la violence.
Ça, ça restaure un équilibre. Ça permet à l'enfant aussi de gérer autrement, parce qu'à l'extérieur, ils ont un comportement différent. Donc, ils vont apprendre des nouvelles stratégies pour gérer leurs émotions loin de leur famille. Donc, ça, c'est intéressant pour le développement et pour les progrès de l'enfant. Mmh. Et puis, ça permet aussi aux parents de se récupérer un peu, de souffler pour être dans des meilleures conditions dans les moments où ils peuvent échanger. Il vaut mieux peu de temps d'échange, mais que ça reste de qualité. De toute façon, il y a un moment où la violence, il faut arrêter. Enfin, on ne peut pas vivre, et ça c'est peut-être le message à dire à toutes les familles, on ne peut pas continuer dans la violence. Et même si les parents disent des fois, mais nous on est prêts, ce n'est pas grave, c'est notre enfant, si on accepte. Mais ce n'est pas une bonne solution. Il faut aller au-delà et se dire, pour la suite, ce n'est pas ça que je veux apprendre à mon enfant. Enfin, je comprends bien que la
décision. Il ne faut pas culpabiliser de le mettre à l'internat. Pour être passé à l'internat, je crois qu'on est nombreux ici à être passé à l'internat, c'est formidable quand on est adolescent d'aller à l'internat. On découvre la vie, on découvre.
Alors c'est formidable, sauf que ce sont des enfants très anxieux. Bah, oui. Donc du coup, ils ont plus de mal.
Mais il n'est pas impossible que j'étais moi-même anxieux. Non, je trouve que ça apporte justement, ça apporte, ça rassure.
Mais bien sûr, mais effectivement, enfin, l'idée de toute façon.
Si je peux parler de moi une seconde.
Non, mais c'est.
Mais c'est vrai.
Mais c'est très important parce que effectivement, les enfants anxieux, on les aide pas, en les rassurant. Ils ont besoin d'être exposés à leur peur. Et ça, c'est souvent chez ces enfants-là, c'est la crainte. C'est-à-dire qu'on voudrait se dire, quand on est des parents trop bienveillants, parce qu'on peut être trop bienveillant, on aurait tendance à se suradapter par rapport à l'anxiété de son enfant et se dire, bah oui, je vais rester avec toi pour que tu t'endormes puisque tu es inquiet, je vais venir te chercher à l'école parce que tu n'as pas envie de prendre le bus. Enfin voilà, donc on aurait tendance à se suradapter, mais en faisant ça, finalement, on se tire un peu une balle dans le pied, enfin, surtout dans le pied de son enfant pour le coup, parce qu'on ne lui apprend pas à être autonome,
à affronter
sa peur, parce que l'anxiété, de toute façon, on ne la traverse qu'en s'exposant à ses peurs. Donc, moins on fait, plus on est inquiet. Donc il faut la
faire violence. Quoi.
Et l'internat, pour ça, c'est un exemple d'exposition où, même en étant anxieux au départ, on peut devenir, du coup, un adulte moins anxieux. Et c'est une vraie expérience dans leur trajectoire. Le problème, c'est de prendre la décision et la décision, elle se fait un peu par la force au départ, parce qu'ils ne sont pas du tout motivés pour y aller. Mais c'est une vraie bonne solution.
Ouais. Bon. non, parce que c'est vrai que moi, je sais qu'il faut que je prenne sur moi. Donc, c'est pas facile, quand même. Ils ne sont pas tyrans, mais voilà.
Ce que vous dites, pour tous les parents d'enfants anxieux, en fait, je crois que c'est un point qu'on réalise un peu au quotidien, mais on a toujours cette tendance un peu instinctive de se dire je vais le rassurer, je vais m'organiser, on fait tous ça. Mais quand l'enfant n'est pas anxieux, c'est super, il n'y a pas de problème et c'est bien. Mais quand l'enfant a vraiment des seuils d'anxiété anormaux, c'est là que ça devient problématique. Et c'est d'évaluer cette limite. Mais on doit dire que les parents qui sont dans nos programmes, ce sont des parents justement extrêmement sensibles aux besoins de leurs enfants, très sensibles. Oui. Et avec des enfants qui ont des troubles. Donc ce n'est pas des enfants standards, évidemment. Sinon, d'ailleurs, on le voit dans la fratrie, il n'y a pas de problème avec les autres enfants. Mais ils se retrouvent à faire face à des enfants qui ont des besoins particuliers. Et comme ils sont ultra sensibles à ces besoins-là, ils vont se suradapter. Mais parce que c'est intuitif, c'est normal. Mais du fait que ces enfants ont d'autres difficultés, ça ne fonctionne pas. Et il faut sortir de ça. C'est une vraie difficulté en tant que parent, parce qu'on veut tellement bien faire que parfois...
Ouais. Alors, Sabrina nous demande si ces problèmes de tyrannie peuvent concerner des enfants de tous les âges. Et est-ce qu'ils se gèrent de la même manière pour un enfant que pour un ado ?
À peu près, je dirais. Alors, c'est vrai que ça concerne tous les âges. Nous, nos parents, ils ont des enfants entre 6, parce que je dirais qu'avant 6 ans, bon, c'est compliqué vraiment de parler. C'est plutôt des enfants qui font des crises, mais c'est un peu classique. Mais à partir de 6-7 ans, jusqu'à ce que l'enfant parte du foyer. C'est-à-dire, on a des parents d'enfants de 18 ans qui vivent encore chez eux.
Ça peut arriver pendant l'adolescence et il n'y avait rien avant.
Pas vraiment, parce que quand même souvent ces enfants qui ont des particularités en termes d'anxiété et de gestion des émotions, c'est rare que ça sorte comme ça d'un coup à l'adolescence, il y a des petits, mais par contre ça peut être bien géré jusqu'à un certain point et puis à un moment donné ça devient invivable, mais en général il y a quand même dans le développement, depuis que l'enfant est petit, il y a des choses particulières, mais c'est vrai qu'on a des parents de grands, les stratégies avec les ados c'est pas tellement différent, c'est qu'il faut aussi en parler, communiquer, sortir du secret. Il y a quand même les mêmes idées, ne pas rentrer dans les escalades, ne pas
profiter des moments de calme peut-être pour parler de ces sujets-là.
Alors pour parler, peut-être pas, justement, en fait, nous, on conseille plutôt aux parents d'être silencieux. Parce que c'est vrai que c'est des parents qui ont tellement été dans la discussion, dans l'échange, dans la recherche de solutions, qu'une des stratégies, c'est le silence, en fait. Au bout d'un moment, c'est de dire, maintenant, vous arrêtez d'en parler. Vous faites des actions, vous mettez des choses en place, mais vous arrêtez de communiquer parce que vous communiquez trop, finalement. Et ce sont des parents qui sont trop dans cette espèce d'hyper-compréhension, hyper-discussion, hyper...
Éducation donc, positive, vous voulez dire, pour ne pas la nommer.
Alors, oui, mais en fait, l'éducation positive, justement, elle est très bien pour l'immense majorité des enfants. Mais quand ils ont des particularités, du coup, ça peut ne pas correspondre.
Alors, une dernière question, Nathalie Franck, quand vous disiez tout à l'heure que souvent, c'était finalement une conséquence de troubles qui n'étaient pas diagnostiqués. Donc, on a parlé des HPI, elle était aussi TDA, je crois, la petite fille de Marion, etc. Donc, le traitement, c'est d'abord d'identifier les troubles et finalement de traiter ces troubles plutôt que de traiter la conséquence du comportement.
Oui, alors c'est tout à la fois, parce que si on prend juste le côté trou, par exemple, l'enfant qui a des TOC, on se dit, il va faire une psychothérapie, mais c'est des enfants qui ne sont pas du tout motivés pour changer. Tant que les parents aménagent pour eux et sont là, ils n'ont pas vraiment de motivation au changement. Donc on va les traîner de force, voir le psy, ils vont raconter ce qu'ils veulent, et puis de toute façon, on n'avancera pas. Donc il faut que, dans la prise en charge, il faut vraiment être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire travailler avec les parents, et oui, avec l'enfant, mais d'abord, il faut qu'il retrouve une motivation au changement. Et ça, c'est un peu le point central, parce qu'un enfant qui a tout le pouvoir, même si à d'autres niveaux, ça ne peut pas l'arranger, mais il est dans une position où il n'a pas envie que ça change, oui, finalement. Donc pourquoi faire une psychothérapie? Pourquoi aller voir des psys? Lui, ça lui va très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille à différents niveaux, effectivement, même s'il y a des troubles.
Merci beaucoup à Nathalie Franck, la pédopsie, d'être venu nous voir dans la maison des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des maternelles. On se retrouve avant 9h30 sur France 2. Et puis, bien sûr, n'importe quand, sur les réseaux sociaux, même en pleine nuit. Et n'hésitez pas aussi, je le dis pas souvent dans ce podcast, pourtant le site est formidable, le site lamaisondesmaternelles.fr qui répond, je pense, à toutes vos questions. Allez, salut tout le monde!